Une émission présentée par Aline.
Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente notre journal hebdomadaire de la santé quotidienne. Et merci à Alex qui fait la prise de son et le mixage, ainsi qu'à toute l'équipe de Radio Saint-Afrique. Au sommaire cette semaine, je vais vous raconter comment combattre le vieillissement naturel des os pour ne pas développer de l'ostéoporose. Et puis, dans la rubrique de ces aliments qui nous soignent, je vais vous présenter un aliment qui nous vient de la culture japonaise, qui est un bon carburant pour soutenir la qualité de nos os. C'est bien sûr l'algue, la laminaire, la cousine germaine de l'algue, le kombu, car elles ont les mêmes propriétés. Et après le partage musical, je terminerai l'émission par la lecture d'un conte à guérir, un conte à grandir, de Jacques Salomé, le conte du maître et de l'élève. Mais tout de suite, passons au thème principal. Parmi les signes de l'âge, il y a les rides et les cheveux blancs. Et un autre moins visible, l'ostéopénie. C'est le mécanisme de vieillissement des os, tout à fait naturel, qui est souvent présenté comme une maladie, car il ouvre la porte d'entrée vers l'ostéoporose. Nous allons apprendre à gérer notre capital osseux, sans les laitages et sans les médicaments, de façon à garder longtemps des os solides. Les os sont des tissus vivants. Ils ne sont pas fabriqués une fois pour toutes, mais se renouvellent en permanence. À chaque instant de notre vie, deux types de cellules s'activent. Les ostéoclastes, qui dégradent les minuscules fragments de vieil os, et les ostéoblastes, qui les remplacent par de l'os neuf. Avec l'avancée en âge et sous l'effet de plusieurs facteurs accélérateurs, l'activité des ostéoclastes augmente, tandis que celle des ostéoblastes ralentit. Et c'est ainsi que nos os se fragilisent. Les os sont très sensibles aux œstrogènes, ces hormones qui stimulent leur formation et freinent leur dégradation. Juste après la ménopause, la perte osseuse s'accélère avec une diminution de 3 à 5% pendant 2 à 3 ans, puis de 1 à 2% pendant une dizaine d'années et enfin 1% ensuite. Perdre de la densité osseuse n'est pas en soi une maladie, mais un mécanisme physiologique naturel. Cela n'empêche que lorsque l'on reçoit un diagnostic d'ostéopénie, la perte osseuse a commencé depuis bien longtemps et cela doit sonner comme un signal d'alarme incitant à redresser la situation en commençant par éviter absolument les comportements susceptibles de l'accélérer. L'âge n'est donc qu'un des éléments en cause dans l'ostéopénie. Il existe de nombreux autres facteurs sur lesquels il est possible d'agir pour freiner l'évolution et même reconstituer de la masse osseuse. L'os est essentiellement constitué d'une trame de protéines, du collagène principalement, sur laquelle se fixent de nombreux minéraux, dont le calcium, mais aussi le phosphore, le magnésium et le zinc. Encore et toujours lui. Actuellement, la densitométrie est la méthode de référence utilisée pour déterminer la masse osseuse. Plus la densité est élevée et plus l'os est minéralisé. Mais est-ce que cela ne concerne que la santé des femmes, puisque je vous parle de ménopause? Eh bien non. Même si l'incidence est plus fréquente chez la femme, l'ostéoporose touche aussi les hommes dès l'âge de 50 ans. On évalue le problème à 4 femmes sur 10, alors que seulement un homme sur 8 serait concerné. Les hommes possèdent une densité osseuse supérieure et ne vivent pas une perte accélérée de la masse osseuse attribuable à la ménopause comme chez les femmes. De plus, leur espérance de vie est plus courte et ils risquent moins souvent de tomber que les femmes âgées. Il existe de bons moyens pour renforcer les os ainsi qu'une stratégie de prévention de l'ostéoporose et des fractures simples. On peut la résumer ainsi. Bien manger, être actif et s'aider avec une supplémentation ciblée. Car les 7 vrais facteurs de fragilisation de l'os sont les suivants. Un régime alimentaire acidifiant qui fait fuir le calcium depuis l'os et empêche sa fixation. Des carences en protéines, en minéraux et en vitamines, en particulier en calcium et en vitamine D3. Un manque d'activité physique qui affaiblit le tissu osseux car ce sont les contraintes mécaniques exercées sur l'os qui les renforcent. Le tabac qui génère un stress oxydant toxique pour les ostéoblastes qui construisent les os. L'alcool aussi est un toxique pour les ostéoblastes, donc à partir de 2/3 d'une bouteille de vin par jour, ça commence à poser problème. Le café, au-delà de 2 tasses par jour, accroît la fuite du calcium. Le stress, qui provoque un état inflammatoire général et perturbe l'équilibre acido-basique du corps. Petit aparté. Je vous l'ai déjà promis, l'équilibre acido-basique sera le thème majeur développé dans la prochaine émission. Et enfin, la prise prolongée de certains médicaments qui peut aussi détruire l'os. Alors, comment ralentir l'affaiblissement des os? Et que veut dire des suppléments bien ciblés? Le zinc, c'est la cheville ouvrière du squelette, car il est le minéral catalyseur. Car mine de rien et sans avoir l'air d'y toucher, il augmente la vitesse de certaines réactions chimiques. La vitamine B6. Personne ne parle de cette vitamine dans la prévention de l'ostéoporose, alors qu'elle se révèle être une clé en ce qui concerne la solidité du châssis sur lequel nous sommes construits. Mais cela ne se fait pas sans le magnésium, qui lui permet entre autres actions de canaliser tout ce qui tourne autour de la production et de l'économie d'énergie pour la fabrication de cette trame. La vitamine D3 et la vitamine K2, qui toutes deux attirent le calcium ainsi que le magnésium et le zinc et permettent à ceux-ci d'aller se fixer au bon endroit et ralentissent leur fuite dans les urines. Elles permettent aussi de mieux absorber le calcium alimentaire et d'améliorer directement l'équilibre général. Le calcium se trouve dans les produits laitiers, mais aussi dans de nombreux végétaux. Les aliments les plus riches en calcium sont le gruyère. Pour 100 g de gruyère, vous aurez 1 g de calcium. Bon, c'est vrai que 100 g de gruyère, c'est beaucoup en une seule prise. Cela vaut au moins 4 portions de fromage. Et pour rester dans le fromage, le Cantal aussi est une très bonne source de calcium. On en trouve 0,7 g pour 100 g d'apport. Et puis, dans 2 œufs, vous aurez 0,55 mg de calcium, ainsi que dans le persil. Et dans le lait entier, pour 100 g, vous aurez aussi 0,12 g de calcium. Comme vous pourrez le constater, ce n'est pas dans le lait que l'on trouve le plus de calcium. Et nos besoins journaliers sont de 750 mg à 1 g par jour. La fourchette haute est recommandée pour les femmes enceintes. En conclusion, je dirais que la santé de l'os est en bonne partie dépendante de l'équilibre acido-basique. Certains aliments génèrent des acides et d'autres des bases. Et lorsque la production d'acides est trop importante, l'organisme utilise les minéraux des os pour tamponner l'acidose. Une consommation accrue de protéines animales, donc de viande et de fromage par exemple, de produits céréaliers et de sel, avec relativement peu de légumes et de fruits, serait la cause d'un excès d'acide dans les tissus du corps. Car pour neutraliser cet excès d'acide, les os vont livrer leur calcium à l'organisme ainsi que d'autres minéraux, ce qui va les fragiliser. Il va donc falloir adopter une alimentation qui va rétablir cet équilibre acido-basique afin de limiter la fuite des minéraux. Et les principaux aliments qui vont faire le job sont les légumes, les herbes aromatiques, les fruits, les pommes de terre, les châtaignes et la patate douce. Viennent ensuite des aliments neutres ou faiblement acidifiants, qui sont les céréales complètes, les huiles végétales, les légumineuses, les oléagineux, le lait et les yaourts. Et à fortement modérer au quotidien, les aliments suivants qui sont acidifiants, tels que le sel, le fromage, le pain blanc, la charcuterie, les viandes et les poissons, le sucre et les aliments sucrés, les céréales blanches, les fritures, le café, le soda, le thé noir, et sans oublier l'alcool. Voilà les recommandations qui peuvent vous être utiles. Merci à Annie Casamayou, Kiran Vias, Gaël Piton pour leurs recherches. Dans la rubrique de ces aliments qui nous soignent, nous allons parler aujourd'hui de ces algues si bonnes pour le corps, en tout cas de l'algue appelée la laminaire japonaise, Laminaria japonica en latin et Haidai en chinois. Si vous connaissez l'algue kombu, elles ont des propriétés similaires. On les trouve facilement au magasin de diététique ou dans les supermarchés chinois. En Europe, les Gallois et les Irlandais consomment les algues depuis 800 ans. En France, c'est au XIIe siècle que les algues commencèrent à attirer l'attention. Les verriers normands utilisèrent les cendres d'algues pour fabriquer du verre. Les paysans bretons les mélangeaient à de la bouse de vache pour faire des galettes de combustible. Colbert en réglementa la récolte, alors que Louis XIV donna l'exclusivité à la fabrique Saint-Gobain pour transporter vers Paris les cendres d'algues pour le verre. En 1811, c'est Bernard Courtois, ce chimiste de Dijon, qui découvre l'iode des algues, ce qui fut suivi rapidement en 1829 par l'établissement de la première usine d'iode. À la fin du XIXe siècle, des algues étaient abondamment utilisées par les maraîchers pour fertiliser les terres. Et en 1930, commença l'extraction de gélifiants et d'épaississants pour l'industrie, qui s'imposa vraiment dans les années 50. Ce n'est que très récemment que l'on retrouve ce légume de la mer dans l'assiette des Français et des Européens. On ne retrouve guère de spécialité traditionnelle en dehors du gâteau d'algues breton, appelé blanc-manger, que l'on donnait aux personnes affaiblies. Leur utilisation culinaire en France ne date que d'une trentaine d'années sous l'impulsion du courant macrobiotique de Georges Ozawa, qui importa certaines algues japonaises. Depuis, les Bretons se sont mis à cultiver ces légumes de la mer et la France est ainsi le seul pays européen à produire les algues pour l'alimentation. Elles sont en majorité utilisées abondamment dans l'industrie agroalimentaire comme gélifiant, épaississant, stabilisant ou colorant. Leur saveur est salée et leur nature est froide. Elles ont un tropisme sur le poumon, le foie, l'estomac et les reins. L'algue laminaire peut être utile dans l'hypertension artérielle, en cas d'excès de cholestérol et de triglycérides, de maladies coronariennes, car elle a une action hypotensive et hypocholestérolémiante. La laminaire est également prescrite dans de nombreux autres cas, le diabète, car elle régule la glycémie, l'obésité, car elle aide à diminuer les graisses, la myopie nocturne, car elle contient des carotènes qui régénèrent le cristallin et la rétine, et l'ostéoporose, on y arrive, car elle contient notamment du calcium et du phosphore. Elle est recommandée contre l'anémie, car elle favorise la fixation du fer. Elle traite l'intoxication au plomb en favorisant l'élimination de ce toxique. La laminaire semble avoir une action remarquable sur la santé des cheveux. Elle favorise la kératine et ainsi la tonicité et la pousse des cheveux. Enfin, la laminaire et le kombu, et même l'algue des sargasses, ont toutes trois démontré une action très intéressante dans l'hyperthyroïdie et l'hypothyroïdie. Cette action est due à leur haute teneur en iode. pour l'hyperthyroïdie, elles ne doivent être utilisées que sur un temps très court. Une consommation massive et prolongée n'est pas recommandée. Les algues en général sont de véritables pompes à nutriments des océans. Elles assimilent en particulier les très nombreux minéraux et oligo-éléments présents dans l'eau de mer. Elles constituent ainsi un complément nutritionnel remarquable. La laminaire contient du calcium, du magnésium, de l'iode, du potassium, du chlore, du sodium et du phosphore, du fer, du cuivre, du zinc, du manganèse, du sélénium, de la silice, du molybdène et du chrome. Pourvu aussi de très nombreuses vitamines B1, B2, B3, B6 et aussi la B12 qui est extrêmement rare dans le règne végétal, ainsi que de la vitamine C et E et des carotènes, c'est-à-dire de la provitamine A. De plus, la laminaire est constituée de très peu de lipides. C'est un aliment hypocalorique et grâce à ses fibres solubles et mucilagineuses, elle est légèrement laxative. Elle offre enfin 21 acides aminés, dont les 8 essentiels. Mais alors, comment consommer ces algues? Car en France, elles ne sont pas encore rentrées dans nos recettes culinaires, mis à part le tartare d'algues qui commence à faire sensation sur nos tables d'apéritifs. Au Japon ou en Corée, les algues sont consommées en petites quantités, mais très régulièrement comme condiment ou complément alimentaire, comme nous le faisons pour l'oignon et l'ail. Cela nous paraît l'utilisation la plus simple. Ajoutez quelques paillettes ou feuilles d'algues dans vos sauces, dans les potages, dans les légumes ou dans les céréales. Mais quelques précautions tout de même, car la nature froide de l'algue contre-indique sa consommation dans le cas de faiblesse digestive. La consommation d'algues durant la grossesse ou l'allaitement doit être très modérée pour éventuellement éviter un excès d'iode qui peut favoriser les troubles chez le fœtus ou le bébé, principalement des troubles de la thyroïde. Ces algues sont aussi contre-indiquées avec la consommation de réglisse, car le mélange peut provoquer des œdèmes. Et effectivement, la consommation d'algues est interdite en cas d'excès d'iode, car il faut être prudent en cas de dérèglement de la thyroïde. On peut donc retenir que la laminaire ou le kombu sont reminéralisantes, stimulantes, amaigrissantes et antigoitreuses. Elles sont argentines, elles sont sœurs, mais avant tout chanteuses et musiciennes. Las Hermanas Caroni. Elles ont posé leurs valises en Europe vers la fin des années 90 pour poursuivre leurs études musicales. Les deux sœurs ont fait partie de l'orchestre académique du Théâtre Colón de Buenos Aires, ainsi que de différentes formations allant de la musique de la Renaissance au répertoire contemporain, en passant par les musiques classiques et traditionnelles. L'une au violoncelle et l'autre au saxophone et à la clarinette. Dans « Notes sur la mélodie des choses », ce duo s'inspire des poèmes de Rainer Maria Rilke. Écoutons Laura et Diana.
Que ce soit le chant d'une lampe ou bien la voix de la tempête, que ce soit le souffle du vent ou le gémissement de la mer. Toujours veille derrière toi cette mélodie tissée de mille voix. Que ce soit le chant d'une lampe ou bien la voix de la tempête, que ce soit le souffle du vent ou le gémissement de la mer.
Ces notes datent de 1898 et se composent de 40 brefs paragraphes. Rainer Maria Rilke a alors 23 ans lorsqu'il se lance dans la rédaction de ce petit recueil de notes sur la mélodie du bonheur. Ces notes, d'une grande beauté, annoncent magistralement son art poétique. La mélodie des choses ne le quittera jamais. L'extrême attention portée à la fois au tout proche et à l'immensité de l'ouvert sera jusqu'à la fin l'un des traits constants de sa poésie. Et la solitude en sera l'élément vital. Et ici, sublimé et mis en musique par Las Hermanas Caroni. Le conte que je vais vous raconter aujourd'hui s'appelle « Le conte du maître et de l'élève ». Il fait partie du recueil de contes à guérir, contes à grandir de Jacques Salomé. Ce conte est inspiré d'un vieux conte hindou. En Inde, dans une région proche du Tibet, il était une fois un maître et son élève. Quand le maître et l'élève eurent débattu des conditions pratiques d'usage, le maître commença son enseignement. Il dit à son élève « Tu dois être fort. Va chercher qui tu es. » L'élève partit chercher la force et un an plus tard, il revint voir son maître et lui dit « Je suis fort. » Pour montrer sa force, il prit un roc qu'il aurait été incapable de déplacer une année auparavant. le leva au-dessus de sa tête et le fracassa en 1000 morceaux sur le sol. « Très bien, dit le maître, tu es fort. Maintenant, tu dois être intelligent. Va chercher qui tu es. » L'élève partit chercher l'intelligence. Et 3 ans plus tard, il revint voir son maître et lui dit « Je suis intelligent. » Le maître lui donna un texte volumineux. « Tu viens m'en parler dans 3 heures. » Ce temps écoulé, le maître et l'élève parlèrent de l'ouvrage, d'égal à égal, jusqu'au lever du jour. Le maître, à ce moment-là, lui dit « Tu dois être sensible. Va chercher qui tu es. » L'élève partit et son absence dura 10 ans. À son retour, il montra au maître toute sa sensibilité. « Très bien, dit le maître, tu es fort, intelligent, sensible, tu dois être aussi rigoureux. » L'élève lui coupa la parole et poursuivit. « Je suis qui je suis. » « Je n'ai plus rien à t'apprendre, répondit le maître. « Va, ton chemin est bien le tien. » Et voilà, notre émission s'achève pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Retrouvons-nous la semaine prochaine, même lieu, même heure. Et d'ici là, portez-vous bien, pensez à bien respirer, à bien manger, à bien rigoler, à bien bouger, à bien vous reposer, à bien aimer. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur le site de Radio Sainte-Afrique, dans l'onglet « Les hebdos » et ensuite « La Vida Vidanta ». Si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, l'émission sera rediffusée le samedi à 8h10. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter. À d'ici!